jours-ci, on parle de mourir dignement. Hein? Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous, ce qu'on demande, est-ce qu'on peut vivre aussi dignement? C'est ça qu'on veut.
Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Voix de fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Voix de fait, c'est l'émission du collectif Anarchiste la nuit. Vous êtes en compagnie de Nicolas.
Gianni.
Et Farouco.
Il y a Stéphane aussi qui est en train de finir de peaufiner son intervention de tout à l'heure. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on a au menu? D'abord, on a entendu la douce voix de France Labelle du Refuge des Jeunes pendant notre thème d'intro. C'est bien, ça introduisait deux sujets de cette semaine. Premièrement, il y a les groupes de sans-abri qui se mobilisait pour demander une aide accrue du fédéral. Ça s'est passé la semaine dernière. Et puis, on a ramené un reportage. Et il y a aussi Stéphane qui va nous parler, effectivement, de la commission Mourir dans la dignité. C'est ça le titre de la commission?
Oui.
Hein? Ouais. Du lien qu'on peut faire aussi avec la droite réactionnaire, religieuse et tout et tout. Et il y a Jamie qui a ses reportages habituels.
Je vais parler de Bell qui est accusé de violer les droits des employés par le syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, puis aussi de la France qui est menacée de poursuivre par la Commission européenne.
Donc, c'est ça. On va s'en aller en musique et on va revenir avec les groupes de sans-abri. On s'en va en musique avec quoi?
Ah ah, on s'en va en musique avec une surprise aujourd'hui. Écoutez bien ça. Si la machine veut bien coopérer. C'est archaïque.
Alors, nous vous rappelons que vous pouvez acheter votre carte de membre à CKIA pour près de 20$, ce qui nous permettra peut-être d'acheter un nouveau lecteur de CD.
Oui, ouais, il va falloir en avoir un autre parce que là, je vais être obligé de fonctionner sur juste un. Alors, on va aller tout de suite avec le ministère des Affaires populaires.
Oui, ministère des Affaires populaires, un band, on ne sait pas trop si c'est du hip-hop traditionnel français. C'est des ch'tis bronzés qui font du ch'ti. Puis, en fait, on va écouter Camarade, qui est une pièce en featuring avec Ken Erkana.
Si le gouvernement vient nous dire qu'il ne peut pas faire plus parce qu'il est en déficit, ben là, on a des affaires à y répondre. La première chose qu'on va y répondre, c'est quand on parle du respect des droits, ben, ne faites pas nous casser les oreilles avec votre déficit.
Oui, non, bon, on comprend que c'était pas le ministère des Affaires populaires.
Oui, et ça va bien à soi.
C'était le Front d'Action populaire.
Hein, quand je t'ai dit que j'ai eu 45 secondes entre la fin du travail et le début de la journée ici, c'est là que ça paraît. Là, je l'ai. C'est bien la 7e piste.
Je crois que oui.
Oui.
Camarade sur les ondes, c'est cogné avec
c'est pas mal mieux, ça.
Insoumis, rebelle infatigable, esprit libre, vagabond nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser d'obtempérer si t'en as marre de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, si t'as compris France Fanon, appelle-moi camarade si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages quand t'inflictes des visages, si t'étouffes comme un tolard dans sa cage, appelle-moi camarade si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment ils neutralisent, comment ils manipulent, désinforment et nous divisent, reste lucide parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise, si tu je pense qu'on est du même côté de la barrière, du même côté du mur, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la misère, du côté palestinien, tu peux m'appeler mon frère. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade.
Appelle-moi camarade, parce que mes larmes sont les tiennes sont les miennes, bref nos peines sont les mêmes, on se démène pour éviter l'abattoir. Ouais je me démerde, merde sans perte de vue l'étoile qui m'a dit pas toi. Je manie la plume comme Marcos, la rage une cassosse, prête à lâcher le mic s'il faut mourir pour la cause. Je rappe la force, je rappe l'espoir, je rappe la fratrie, issue d'une génération endormie par la matrice, enfant de l'insomnie, bordé par le macadam, percé par le vague à l'âme, appelle-moi camarade, cause d'un monde bien malade, où tout le monde s'en bat la rage, braque les haut-parleurs avec des rimes dans lesquelles parle la rage, anti-norme, impossible. Plan carté, autonome comme les anars à cran, comme les frères de quartier. C'est l'heure de s'unir car l'urgence nous rattrape. Dans le meilleur ou dans le pire, on est ensemble, camarades.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant,
insoumis, rebelle infatigable, esprit libre. Vagabond nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade.
Ils ont enfermé nos rêves, braqué nos idéaux. Ils ont cadenassé nos révoltes, ils ont fait taire ceux qui parlaient trop. Ils ont jugé que nos colombes obscurcissaient leur ciel. Ils les ont tout butés de leur sang, ils ont fait leur miel. Silence on tue, silence on assassine. On élimine tous ces illuminés qui voudraient changer le scénario du film. Leurs dessins, on les connaît par cœur. Je veux pas te refaire le tableau, ce monde est hardcore. Patrie, pétrole et pouvoir, leur chef-d'œuvre du grand art. Y'a qu'à regarder pour voir, on est mort sans savoir. Comme asphyxié, en perte d'oxygène, comme enchaîné à la destinée de cité où la bourse règne. J'étouffe, j'aimerais tellement changer d'air, mais au fond de moi je sens bien que c'est ce putain d'air qu'il nous faut changer. C'est une simple question de survie, bien plus qu'une croisade. Armée de l'ombre en embuscade, pas moi ce camarade.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre. Vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre. Vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre. Vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé.
Oui, donc toujours à voix de fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. C'était le ministère des Affaires populaires. Si vous faites une recherche sur Google, vous allez probablement tomber sur leur site. Je pense que tout leur premier album est en téléchargement. Le deuxième, bon, il va falloir l'acheter ou en tout cas le trouver autrement. C'est une pièce qui était tirée de Les Bronzés font du ch'ti. Fait que...
Ville et Montréal, on demande des comptes au fédéral. De l'argent neuf pour l'Esprit avant la semaine des 4 jeudis.
Oui, donc comme on le disait, les groupes de sans-abri sont mobilisés la semaine dernière pour demander une aide accrue du fédéral. En fait, jeudi, il y avait des manifestations simultanées dans 5 villes. À Montréal, près de 200 personnes se sont rassemblées à l'appel du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM. Avec aussi là, des militants du Frappru qui est en Assemblée générale, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ramène du stock de Montréal et pas de Québec, parce qu'à Québec, il y avait le regroupement d'aide aux itinérants et itinérants de Québec qui faisait quelque chose aussi. Il y avait d'autres rassemblements à Saguenay, à Sherbrooke et à Gatineau. Et sans plus attendre, on va entendre Pierre Gaudreau, le coordonnateur du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, qui explique un peu là, le pourquoi de la mobilisation.
Partout au Québec, ce qu'on voit, c'est qu'il y a davantage de gens qui se retrouvent dans la rue. Pour combattre ça, pour régler ça, pour aider les gens qui se retrouvent dans la rue à s'en sortir, pour prévenir que d'autres mondes s'y retrouvent, il y a un programme qui est utile au niveau du gouvernement fédéral. Le programme, il n'a pas tout réglé, mais il a beaucoup aidé les organismes, il a beaucoup aidé les personnes à améliorer leurs conditions. Ça fait une dizaine d'années que ce financement-là fédéral existe dans différents noms. Maintenant, ça s'appelle la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance. De façon surprenante même, le gouvernement conservateur a annoncé il y a 2 ans qu'il maintenait ce programme-là, qui fait l'unanimité à la Chambre des communes pour 5 ans. Ils ont engagé le financement pour 2 ans. Ce qui nous amène à se mobiliser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va arriver pour 2011-2014 au 1er avril prochain. On est ici pour demander d'abord et avant tout aussi, parce que Mme Finney nous a dit, oui, le programme va être là pour 3 ans, qu'il y ait davantage d'argent. Le budget, il est le même depuis 10 ans au Québec, au Canada, à Montréal. À Montréal, c'est un peu moins de 8 millions de dollars par année, et ça, c'est un programme qui s'attend à l'intervention, au développement de projets de logement, à l'amélioration des équipements, des installations. Comme je l'ai dit, comme on l'a scandé, c'est un programme qui sert à différents types d'interventions. Tu travailles dans la rue, tu travailles dans les organismes, l'achat de logements, l'achat d'équipements dans les logements, parce que les gens ne trouvent rien, des meubles, des cuisines communautaires. Et ça, on veut que ça demeure, des motorisés pour se promener dans les rues de la ville. Donc, on veut plus d'argent et on veut que le programme permette différents types d'interventions. C'est le message qu'on porte, qu'on continue à porter depuis des mois et pour lequel on n'a toujours pas de réponse de la ministre Finley, outre ce qui n'est pas rien, que oui, le programme sera là pour 3 ans. Donc aujourd'hui, on reprend la rue et on va continuer à le faire tant qu'il n'y aura pas de réponse, tant qu'il n'y aura pas des budgets augmentés.
Donc, c'était Pierre Gaudreau du Rapsim. Il y a plusieurs groupes communautaires de Montréal qui s'étaient mobilisés à cette occasion-là. Et entre autres, Marie-Hélène Hull du Chaînon qui était présente et qui rappelle que, bon, l'itinérance au Québec, c'est une réalité. On a tendance à l'oublier. On pense, bon, c'est peut-être un peu des gauchistes qui se mobilisent et tout, mais il y a quand même une réalité assez crade derrière ça. Et c'est une réalité qui est, en fait, l'augmentation de la pauvreté. Donc, on va entendre rapidement Marie-Hélène Hull du Chêne.
Parce qu'on est solidaires. Et pourquoi on est solidaires? Parce que nous constatons au quotidien l'augmentation de l'itinérance ici à Montréal. Chaque soir, à notre service accueil de nuit, nous devons refuser 4 demandes. Et durant l'année 2008, l'année 2009-2010, nous avons accueilli 4474 femmes et nous avons dû refuser 1643 demandes, 300 demandes de plus de l'année dernière. Alors, ce qui fait que notre taux d'occupation à l'accueil de nuit est passé de 98% à 101,7%. Alors, ce qui veut dire que l'itinérance est en croissance et la pauvreté augmente.
Donc, comme on le disait, bon, le fédéral, il donne des sous là via le SPLI, la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance. Et puis donc, c'est ça, ces affaires-là, ça permet, entre autres, de payer des salaires, mais aussi d'avoir différents projets. Puis, il y a France Labelle du Refuge des jeunes là, qui est venu un peu témoigner de qu'est-ce que ça permet de faire, en fait, ce cash-là, finalement.
On m'a demandé de dire un petit peu ce qu'on avait fait au refuge avec SPLI. Alors, je suis remontée en arrière. Alors, on a un beau plancher, imaginez-vous donc. C'est assez intéressant. On était sur le béton pendant des années. Il fallait fermer à chaque fois qu'on peinturait. Maintenant, on a un beau plancher SPLI. Et ça, c'est merveilleux. À part de ça, dans la buanderie, dans les douches, ben, il y avait des moisissures. Ça fait qu'on accueillait le monde dans du moisi. Maintenant, j'ai des belles douches, j'admire, on fait notre lavage, il n'y a plus de moisie, mais j'avais peur de m'en ennuyer. Alors, nous, on a acheté un sauna, on déménage dans un sauna. Alors, on va avoir besoin de SPLI encore pour se débarrasser du moisie, imaginez-vous donc. Alors, ça, c'est l'avenir qui est devant nous. On a un logement social, Pierre a élaboré au niveau des différentes choses. Logement social avec soutien communautaire, on a développé des unités de logement. Qu'on parle de douche, de plancher, de logement, de soutien communautaire, en fait, on parle d'une seule chose. On parle de personnes qui sont sans abri, en difficulté, en situation de pauvreté et de précarité. Alors, c'est pour ça qu'à chaque année, on vient à peu près sur la même dalle pour redire la même chose, pour redemander la même chose. Ces jours-ci, on parle de mourir dignement. Hein? Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous, ce qu'on demande, est-ce qu'on peut vivre aussi dignement? C'est ça qu'on veut.
Évidemment, quand on demande de l'argent, toujours la question, qui va payer, d'où ça va venir, combien ça coûte, est-ce que c'est vraiment utile et tout. Et François Saillant avait du Frappru, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, avait cette réponse-là aux gens qui peuvent se demander est-ce qu'on a les moyens, dans une période de déficit, de mettre de l'argent sur l'itinérance.
Si le gouvernement vient nous dire « Tu ne peux pas faire plus parce qu'il est en déficit », ben là, on a des affaires à y répondre. La première chose qu'on va y répondre, c'est quand on parle du respect des droits, ben, ne faites pas nous casser les oreilles avec votre déficit. La deuxième chose qu'on va y dire, c'est si vous vous êtes ramassé en déficit, c'est pourquoi? C'est à cause des réductions d'impôts, les baisses d'impôts que vous avez accordées, qui ne profitent pas au monde ici, qui profitent essentiellement aux plus riches et aux grandes compagnies. Et si on est en difficulté financière, c'est à cause de la crise économique. C'est toujours bien pas les personnes itinérantes qui sont responsables de la crise économique. Et seulement si on vient nous dire qu'on n'a pas 21 millions de dollars à donner pour intervenir contre l'itinérance à Montréal, bon, on va lui dire, mais vous savez quand même, 21 milliards de dollars par année que vous donnez aux dépenses militaires qui servent à tuer du monde. Ouais. 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 On est ici aujourd'hui
et on va continuer à être ensemble parce que le combat qu'on mène, c'est un combat pour le droit à la dignité, c'est un combat pour le droit au logement, c'est un combat pour le droit à un niveau de vie suffisant. Merci.
Le gouvernement fédéral doit financer le logement social. Conservateurs, réveillez-vous, la pauvreté existe chez nous. Conservateurs, réveillez-vous, la pauvreté existe chez nous.
Alors voilà, c'était notre reportage sur les groupes de sans-abri qui demandent une aide accrue du fédéral. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur Internet. Bon, d'abord sur notre blog, il y avait des images de ce rassemblement-là, mais sinon, vous pouvez aller aussi sur le site du RAPSIM, www.rapsim.org. Et puis nous, on va s'en aller à la musique, mais avant, juste vous rappeler qu'on revient après la musique avec la France qui est menacée de poursuite dans l'affaire des Roms, et Belle qui est accusée de...
violer les droits de ses employés.
C'est cela. C'est quoi qu'on écoute en musique, Jean-François?
On s'en va écouter The Slackers, un band new-yorkais de ska.
Vous écoutez Voix de Fer.
C'est toujours aussi débile, quoi. Faut vraiment être con militaire pour donner des noms comme ça.
De retour à Voix de Fait sur les ondes de CKR 88.3 à Québec. On est rendu au... Tu commences par laquelle, Johnny?
Je vais commencer par Bell, qui est accusée de violer les droits de ses employés. Ça, c'est le syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, là, qui a déposé une plainte lundi au... dans le fond, l'article journal de Québec, ils disent pas c'est où. Bon, c'est qui a déposé une plainte de pratique déloyale de travail au nom des employés de Bell Mobilité. Selon eux, Bell interfère illégalement et restreint le droit des employés de participer à une négociation collective. Ça, dans d'autres mots, en fait, le syndicat là, il accuse Bell Mobilité d'intimider et de menacer les employés qui veulent adhérer à un syndicat. C'est qu'il y a plusieurs employés de Bell qui auraient reçu des pressions de la part de superviseurs de l'entreprise pour qu'ils signent des formulaires de révocation de leur adhésion au syndicat. Puis, selon ce syndicat-là, ben, ces employés-là, ils se seraient fait dire que tu vas perdre ta job ou tu vas être mis en lock-out, c'est-à-dire au syndicat. Puis, des superviseurs qui auraient reçu des directives de la direction afin de participer ouvertement à des activités anti-syndicales au travail. Puis, les cadres aussi feraient circuler un article concernant la fermeture de 3 centres d'appel de Bell Alien dans l'Est canadien. Afin de convaincre les travailleurs que la fermeture des centres d'appel et que la perte d'emploi sont liées à syndicalisation, selon le syndicat des Canadiens de communication, l'énergie et du papier. Ça, la conduite de Bell constitue une infraction au Code canadien du travail.
Comme on le voit, on a encore des croûtes à manger à ce niveau-là. Hein? C'est inspiré des Américains, ouais. Le union busting. Qu'est-ce qui se passe en France, là?
En France, c'est pas un peu plus joyeux. Ben, c'est au sujet de, comme on en parlait la semaine passée, au sujet de l'expulsion des Roms. C'est la Commission européenne qui a menacé hier de pourvoir le gouvernement français en justice pour sanctionner l'expulsion de Roms roumains et bulgares, qui a accusé les autorités françaises de duplicité et a fait un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. C'est Viviane Reding, en charge de la justice et des droits fondamentaux au sein de l'exécutif européen. Ils sont très savants. J'ai été personnellement interpellé par les circonstances qui donnent l'impression que des personnes sont renvoyées d'un État membre juste parce qu'elles appartiennent à certaines minorités ethniques. J'ai pensé que l'Europe ne serait plus témoin de ce genre de situation après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Puis là, elle dit, personnellement, je suis convaincu que la Commission ne veut pas avoir d'autre choix que de lancer des procédures d'infraction contre la France. C'est ça. Ben, dans le fond, ce serait une forte amende qui serait la conséquence de ça. Il y a l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch qui, quant à elle, demande au gouvernement français de se plier à la demande de la Commission européenne de cesser d'expulser les Roms de son territoire. Mais pourtant, les Français, eux autres, disaient que c'est pas sur une base ethnique qu'ils font ça. Puis là, Sarkozy, ben, il a dit, bon, prenez les envoyer au Luxembourg. Ça servait à ce que.
Ah, mais c'est louche, ça. L'insulte est poussée jusqu'à l'extrême, jusqu'à. On dit que c'est des Roms, puis ils leur donnent une nationalité, alors que des Roms, c'est des peuples du voyage, en théorie, eux-mêmes disent. Non, nationalité.
Oui, mais ils nient ils nient la spécificité. Là.
C'est ça.
Ils nient aussi leurs propres engagements par rapport aux Roms.
Oui, aussi.
Puis, suite à cette menace-là de poursuite, ben, dans le fond, la France, ben, dit qu'il allait continuer à démanteler les campements réguliers sur son territoire, mais que, dans le fond, ils n'ont pas l'intention d'arrêter.
Donc, on se dirige vers un bras de fer avec l'Union européenne. On verra s'ils vont de l'avant avec ça. Sinon, c'était beau.
Oui.
Nous, on va à la musique et on va revenir avec Stéphane qui va nous parler de la commission Mourir dans la dignité et de l'approche de la droite catholique là-dessus, je crois, quelque chose comme ça.
Oui.
Vous en saurez plus au retour sur les ondes de CKR 88.3 à Québec. C'est quoi qu'on s'en va écouter?
Rammstein.
Rammstein.
Do you want me?
No, I don't.
Do you need me?
Hey, vous êtes de retour à Voix de Fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. On a notre spécial chroniqueur droite populiste évangéliste chrétienne fucké.
Ouais, ça ressemble à ça.
Stéphane.
Allô, allô. Et oui, donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, ben, un petit peu comme à la dernière saison, je sais pas si vous vous souvenez, chers auditeurs et chères auditrices, on avait décidé de parler un petit peu de la campagne Québec Vie, donc en fait un mouvement de pro-vie qui s'oppose au droit à l'avortement. Et donc j'ai décidé de revenir un petit peu sur ce thème des droites religieuses avec un angle un petit peu particulier qui est celui de la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Donc j'imagine que tout le monde
en a entendu parler. La commission sur l'euthanasie.
Voilà, exactement.
Et puis la suicidacité.
Oui, le suicide assisté, effectivement, c'est deux concepts qui sont un petit peu différents. Donc c'est une commission parlementaire qui siège depuis quelques semaines et puis qui visiblement va se poursuivre jusqu'en octobre parce qu'il y a énormément de monde qui participe. Donc ça, c'est un premier point qui est assez surprenant. Là, ça génère un énorme débat de société dans la commission, dans les journaux, dans les médias en général. Donc tiens, bien une première petite question. Qu'est-ce que ça veut dire euthanasie ? Est-ce que tu connais l'étymologie du mot ?
Ah mon Dieu, l'étymologie, non, là, mais ce que je comprends, c'est une aide pour mettre fin... c'est une fin de traitement. L'euthanasie, non, l'euthanasie, c'est quand tu demandes à mettre fin à la vie, en fait.
Ah ben, on a bien fait de faire cette chronique, hein, tu vois. Donc, euthanasie, ça veut dire... eux, c'est doux, en grec, et thanatos, c'est la mort. Donc, c'est la mort douce, en fait, euthanasie. Donc, l'euthanasie, c'est un acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d'une autre personne pour mettre fin à ses souffrances. Donc, tu vois, il y a un objectif compassionnel.
Est-ce que c'est à la demande de l'autre personne,
nécessairement? Oui, à la demande de l'autre personne, mais pas forcément nécessairement. En fait, c'est comme ça qu'on l'entend, mais dans la définition, on pourrait imaginer que non, effectivement, un médecin prendrait de lui-même cette décision-là. Mais effectivement, les balises légales qu'on cherche à mettre en place, parce que c'est le but de la commission d'arriver à proposer un cadre juridique pour l'euthanasie, elles visent à ce que, justement, on obtienne le consentement du patient, par exemple.
Et c'est pas la même chose qu'une fin de traitement?
C'est pas... Je sais pas exactement ce que t'entends par là.
Non, mais c'est parce que comme quand t'as quelqu'un qui est très malade, qui est en phase terminale, mm-hmm. tu peux décider de juste... un refus de traitement, tu mets fin au traitement et ça provoque...
Ok, on va y venir, tu vas voir. En fait, moi, juste avant de venir à ce point-là, je voudrais juste qu'on fasse la distinction entre le suicide assisté, qui est un acte donc décidé, exécuté par la personne elle-même, donc sans l'interférence d'un médecin ou quoi que ce soit, alors que l'euthanasie, dans ce cadre-là, tu as un acte qui est posé par un médecin. Donc ça, c'est vraiment deux phénomènes qui sont différents et sur lesquels donc la commission est en train de se prononcer également. Donc il faut comprendre aussi que la commission, c'est pas une commission qui pop comme ça de n'importe où. Elle fait suite à une demande du Collège des médecins qui, dans son rapport annuel de 2008, avait demandé à ce qu'on instaure la commission pour pouvoir légiférer, avoir un cadre légal. Parce que ce qui dérange les médecins, c'est qu'en fait, dans la réalité, l'euthanasie ou le suicide assisté se pratique couramment dans les milieux des soins palliatifs et que les médecins ont peur d'être poursuivis finalement. Donc il y a vraiment un enjeu très pragmatique là, du réel politique, si tu veux.
En fait, ils veulent un encadrement pour savoir où s'en aller avec ça.
Ouais, pour se protéger, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est la motivation, disons, corporatiste des médecins. En même temps, c'est aussi une occasion pour la société de réfléchir à la façon dont on veut encadrer finalement les derniers jours de quelqu'un. Donc c'est un débat qui est effectivement assez récent, mais qui trouve ses origines très très loin, jusque dans la Grèce antique, savais-tu ça ? Donc plus de 3 siècles avant Jésus-Christ,
mais ça crée l'euthanasie.
Secrètement, l'euthanasie, si on veut, ouais. On peut dire ça un coup de ciguë. Je suis pas sûr qu'on lui avait demandé son consentement, par exemple. Donc, on trouve déjà des traces de ce débat-là, tu vois, chez Hégésias de Cyrène, donc j'ai trouvé ça sur Internet. Donc, 3 siècles avant Jésus-Christ, on parle déjà des interrogations concernant la mort en cas de maladie. Est-ce que tu peux la provoquer ? Est-ce que c'est moral ou pas ?
Bah, c'est une pneumonie, tu peux... Non.
En fait, il y a... Moi, je te dirais, j'ai quand même remarqué dans les différentes interventions, parce que c'est la plus grosse revue de presse, je pense, que j'ai fait depuis très longtemps. Il doit y avoir au moins une trentaine d'articles au travers desquels je suis passé dans la presse ou dans le Devoir, parce que je lis pas le journal de Québec. Je préfère mon papier hygiénique, en fait, je trouve ça plus intéressant. Mais donc, il y a 4 facteurs intéressants donc qui émergent un petit peu pour qui rendent ce débat plus prégnant. Donc, tu as un premier facteur qui est le facteur démographique. Bah, forcément, on a une population qui vieillit. Donc, finalement, le baby-boom des années 50, il se transforme en papy-boom, grosso modo. Et donc, les personnes
papy
âgées...
Boom, c'est intéressant,
ouais,
papy-boom,
c'est mignon. Hein. Donc, les personnes âgées, elles sont plus susceptibles d'être malades, donc elles vont avoir leur mot à dire. Bref, la mort devient une question d'actualité pour un plus grand nombre de personnes. Donc, t'as un premier facteur, effectivement, démographique. T'as un facteur également technique, puisque depuis pas si longtemps, finalement, on a mis en place des procédures chirurgicales, un arsenal pharmacologique, donc de plus en plus performant pour éliminer des morts dites naturelles, entre guillemets, viendra là-dessus. Et donc, on est capable de prolonger la vie au sens biologique du terme dans des limites qu'on n'avait jamais connues auparavant. Donc, on n'a qu'à penser à l'utilisation massive des opiacés, les respirateurs artificiels, etc. Donc, ça pose aussi de nouvelles questions. À titre de facteur technologique, on peut aussi dire qu'il y a des nouvelles maladies qui émergent, qui sont aussi un peu le fruit amer, disons, du progrès scientifique. On n'a qu'à penser aux nombreux cancers, etc. Donc, tout un tas de nouvelles maladies qui font finalement actualiser la question. Je pense qu'il y a aussi un cadre économique qui est souvent mis de l'avant, notamment par les détracteurs de l'euthanasie. Donc, on s'imagine ou on présente souvent comme un argument le fait que l'euthanasie pourrait permettre de réduire les coûts dans le système de santé. Donc ça, c'est vraiment un argument qui revient très souvent, la peur d'une dérive finalement un peu totalitaire ou économique, libérale. Donc cet argument-là, en fait, moi je citerai juste une étude qui a été mentionnée, qui est souvent mise de l'avant d'ailleurs, qui a été mise de l'avant dans la commission aussi, celle du docteur Margaret Batin, donc une philosophe américaine qui est reconnue dans le domaine, collaboratrice chevronnée des Pays-Bas et de l'Oregon, et ce sont deux endroits où on a légalisé l'euthanasie. Et donc, elle a publié en 2007 une analyse minutieuse de données cliniques recueillies, etc., qui s'appelle « Evidence concerning the impact on patients in vulnerable groups ». Et elle décèle pratiquement aucun abus euthanasique donc n'a été décelé envers les aînés. Et dans une autre étude, Batin et Emmanuel, donc un autre chercheur, démontraient que les économies découlant de l'euthanasie, si elles existent, seraient de l'ordre de 0,01% du budget total de la santé. Donc, tu vois, c'est pas vraiment un argument si intéressant que ça. Et d'ailleurs, le journaliste qu'il citait disait que ça devrait suffire à faire taire des voix mal renseignées. Puis je crois qu'il y a aussi un autre facteur politique qui est important, puisqu'en fait, on vit dans une ère qui est marquée par le libéralisme politique, dans le sens où la génération qui vieillit aujourd'hui, c'est la première qui a vécu entièrement sous le régime de la Révolution tranquille. Donc, c'est-à-dire, c'est une société sécularisée qui refuse de soumettre aux impératifs moraux de la religion et donc qui s'organise politiquement sur une autre base que celle de la morale chrétienne. Donc, depuis 72, par exemple, tu vois, au Canada, on a dépénalisé le suicide, alors qu'il était criminalisé selon la Bible, finalement, si on veut voir ça comme ça. Donc, bref, on vit dans une...
Excuse-moi, comment on pouvait...
Criminaliser le suicide?
Ouais, mais la personne, un coup qui s'est suicidé, c'est quoi tu fais?
Mais si tu te rates, du coup, tu deviens criminel. Si t'aides quelqu'un, tu deviens criminel, etc. Dans ce sens-là. Donc, en bref, finalement, on vit dans une société dans laquelle, pour la première fois, en fait, on peut se poser la question de la fin de la vie, puis présenter ça comme un choix. Donc, c'est un peu ces quatre facteurs-là, je te dirais, qui rendent le débat intéressant aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on peut rapidement regarder le statut légal de l'euthanasie au Québec et au Canada, si ça vous tente. D'après vous, est-ce que c'est... autorisé, interdit. Ouais. En fait, il y a des petites distinctions qui sont intéressantes à comprendre, parce que je crois que c'est toujours dans la nuance qu'on se fait toujours les meilleures idées sur les choses. Donc au Québec, par exemple, c'est légal de refuser des soins. Donc tu as le droit de refuser des soins, même dans le cas où ceci, donc le refus, peut entraîner des conséquences graves pour le patient, incluant sa mort. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc effectivement, tu as le droit de te suicider, tu as le droit de demander à ce qu'on débranche, par exemple, un respirateur artificiel. Cependant, il n'est pas légal de mettre fin à ses jours, d'aider une personne à mettre fin à ses jours, même si elle le demande en toute connaissance de cause. Et même si elle le formule de façon répétée, en pleine possession de ses moyens, ça, c'est pas légal. Donc c'est vraiment ce sur quoi est en train de réfléchir la commission, finalement.
Que la personne soit assez autonome pour le faire elle-même.
Effectivement, et dans ce cas-là, à ce moment-là, on ne dira plus rien. Donc l'euthanasie, elle est donc présentée finalement par certains comme le droit de mourir plus rapidement en s'épargnant des souffrances qui sont jugées inutiles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les termes de la loi, finalement, on distingue deux formes d'euthanasie. L'une qui serait l'euthanasie active, donc qui consiste à poser un geste volontaire pour assister une personne à suicider, à sa demande. Et donc ça, effectivement, c'est interdit. Donc par exemple, on pourrait citer, je sais pas moi, un enfant, un fils ou une fille qui donnerait une dose massive de morphine à son parent qui est malade ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est illégal au Canada et c'est assimilé à une tentative d'homicide. Donc c'est puni comme un meurtre. Alors que l'autonomie passive, elle consiste donc grosso modo à priver une personne des moyens artificiels qui lui permettent de rester en vie. Et ça, donc dans ce cas-là, ça tombe sous le coup de ce qu'on disait tout au début, c'est-à-dire qu'une personne a le droit de refuser des traitements, donc elle a le droit de demander à quelqu'un de ne pas lui administrer un traitement, donc ça c'est légal. Donc l'euthanasie passive, elle est déjà en fait autorisée légalement.
Ce que je suis pas sûr de suivre, c'est tantôt tu disais on n'a pas le droit d'assister quelqu'un, mais tu dis que la personne a le droit de demander un refus de traitement, mm-hmm. une fin de traitement,
oui.
Mais t'as pas le droit de l'assister.
En fait, s'il y a des moyens artificiels qui la maintiennent en vie, un traitement qui la maintient en vie, tu as le droit de ne pas lui administrer à sa demande.
Ok, mais tu n'aurais pas le droit
de... Mais tu n'aurais pas le droit de lui administrer une substance qui va causer sa mort. Okay. Je sais pas si tu vois. Et effectivement, après, il y a une énorme zone floue, une zone grise. Comme on commence à soupçonner très fortement que dans beaucoup de cas, par exemple, l'utilisation massive de morphine, sur un très long terme, elle a des conséquences qui sont vraiment dommageables pour le système de santé. Donc là, est-ce que t'as euthanasié? Est-ce que t'as soulagé la douleur? Etc., etc. C'est un peu tout cet embroglio juridique qui fait que la question de débattre sur l'euthanasie est légitime ces temps-ci. Et d'ailleurs, en Colombie-Britannique, par exemple, il y a tout un tas d'affaires, au Québec, etc., en Colombie-Britannique, qui nous font bien comprendre que c'est très très difficile de bien juger de tous ces cas-là. Par exemple, dans l'affaire Sue Rodriguez, on a déterminé que dans certaines circonstances, il n'y a pas lieu d'intenter des poursuites contre les personnes qui assistent au suicide d'un patient. Donc tu vois, en Colombie-Britannique, on a déjà une jurisprudence qui commence à émerger. Puis,
oui. Ça, c'est le cas avec Sven Robinson, Sue Rodriguez.
Ah, j'ai pas vu Sven Robinson. Non, ça me dit rien du tout.
Ok, c'est un député du NPD, en fait, puis c'est lui qui l'avait accompagné directement, puis c'était entre autres pour ça que c'était plus touché, parce que c'était un membre du Parlement.
Ah, ok, non, ça me dit rien du tout. Mais peut-être que oui, effectivement, ça rend les... C'était un cas assez difficile à juger. Donc, pour en revenir donc à ces débats un petit peu litigieux, donc il y a même parmi les médecins, t'en as qui sont... majoritairement, en fait, t'as un sondage qui est apparu récemment dans le Collège des médecins, donc qui montrait que 70% des médecins voulaient bien étaient en faveur de l'euthanasie. T'en avais quand même une vingtaine de pourcents qui disaient que même si c'était légal, ils le feraient pas. Puis t'as aussi d'autres médecins qui sont fortement, catégoriquement opposés donc au recours à l'euthanasie ou au suicide assisté, donc comme Caroline Girouarda par exemple, ou André Bourque, dont on reparlera un petit peu plus tard. Donc eux, ils invoquent en fait des arguments de type moraux. Donc, ils pensent que la dignité d'une personne, elle vient d'un rapport qui dit « tu es aimé », donc tu vois, ça rappelle un peu la Bible déjà, et elle finit son intervention en disant que « tuer, c'est toujours trahir cet amour ». Donc, on va revenir en fait sur ces différents argumentaires, parce que ce qui m'intéresse, moi, dans ce débat-là, c'est vraiment le parallèle qu'on peut faire entre les argumentaires des deux camps, qui s'opposent pour l'euthanasie, contre l'euthanasie, puis on va voir qu'il y a énormément de parallèles à faire avec le débat sur l'avortement. Donc peut-être pour finir, avant un petit peu de musique...
On va finir l'introduction.
Ouais, finir la première partie, c'est ça. Juste quelques petites statistiques pour se faire une idée sur ce dont on est en train de parler comme phénomène de société. Donc en Oregon, aux États-Unis, depuis la légalisation du suicide assisté en 2007, seulement 0,2% de tous les décès sont survenus par ce moyen. En Belgique, entre 2003 et 2009, les analyses démontrent que entre 0,2 et 0,9% de tous les décès sont attribuables à l'euthanasie. Et aux Pays-Bas, où la loi permet le suicide assisté et l'euthanasie depuis 10 ans, on a remarqué que grosso modo 2% des décès sont attribuables à l'euthanasie et 0,1% au suicide assisté. Donc c'est pas non plus une nouvelle façon de tuer tout le monde, grosso modo.
C'est pas une hécatombe.
Voilà, c'est pas l'Holocauste.
Non.
Vérification faite, effectivement, Sue Rodriguez en 1994, quand elle a finalement, après avoir perdu deux fois en Cour suprême sur le droit de se suicider, finalement, elle l'a fait avec l'aide d'un médecin anonyme. Et il y avait Sven Robinson, député du Nouveau Parti démocratique, qui l'assistait.
OK.
Qui, en fait, c'est lui qui l'avait assisté tout le long de ses batailles face au gouvernement fédéral. Et entre autres, pour ça, c'est parce qu'il y est allé de façon très, très, très ouverte sur le fait que...
Il avait aidé.
C'est ça.
Ah, c'est bien, ça pose le débat. Un peu de musique, Jeff?
Oh oui, on va commencer ça tout de suite, la présenter après.
Magique, la victoire sera là, occupez une debout, vos armes en hier, touchez vos cheveux fous, pour rejoindre les enfers, on lui voit deux, la grande main, pour vivre là, très longtemps.
Les fous roulent là, pour vivre là.
Les motards
ont une voix de les véhiculats ont juste pour vivre
sans état.
Vous êtes de retour à Voix de fait sur les ondes de Sécurité 88.3 à Québec. On est en compagnie de Stéphane qui nous parle... De quoi tu nous parles déjà?
D'euthanasie, finalement.
D'euthanasie.
Effectivement. Donc là, on était rendu à avoir présenté un petit peu ce que c'est que la commission spéciale sur l'euthanasie. Puis comme je le disais juste avant la pause musicale, en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce débat-là, c'est de comprendre les parallèles qu'il y a avec le débat sur l'avortement, dans la mesure où on va voir... Il y a beaucoup de similitudes, puis ça, je pense que ça peut nous permettre aussi de se faire une sorte de petit guide d'autodéfense intellectuelle, finalement, pour reprendre l'expression de Normand Baillargeon. Donc, d'après vous, est-ce qu'il y a des parallèles, est-ce que vous en voyez des parallèles entre avortement et euthanasie?
C'est la vie.
Ouais.
L'espèce de droit sacré saint de la vie, la protection à tout prix.
Effectivement. Donc ça se ressemble pas mal. D'ailleurs, le premier parallèle que je vous propose, finalement, c'est l'implication de groupes de catholiques intégristes. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Ils interviennent pas sur tout, hein, sur la hausse des taxes, par exemple, etc. Sur le Colisée de Québec, ils interviennent pas non plus. Donc c'est des sujets qui leur plaisent. Et comme tu disais, effectivement, eux, ce qui les intéresse là-dedans, c'est donc cette idée de droit sacré à la vie. Donc ça vient d'une ordonnance papale Provit, qui a été promu par une bulle, en fait, qui a été édictée par Benoît XVI, et donc dans lequel il défend le droit, ce qu'il appelle le droit sacré à la vie, de la conception à la mort naturelle. Donc tu vois, c'est lui qui a donné aussi les grands concepts, le vocabulaire, etc., qu'on retrouve dans toutes les argumentations des gens qui sont donc pro-vie, anti-choix et anti-euthanasie.
C'est comme leur chef, genre.
Ouais, en fait, lui qui pose la doctrine. C'est lui qui pose la doctrine, finalement.
Dans le fond, il faut juste répéter ce que le perroquet dit en haut.
Bon, c'est un peu le même avis. Donc, tu vois, par exemple, la campagne Québec Vie, donc celle dont on avait parlé, donc l'association qui était proche d'une revue très conservatrice, hein, la revue Égard. Donc, on avait parlé déjà de la campagne Québec Vie. Eux aussi sont impliqués donc dans le débat sur l'euthanasie. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que leurs opposants, donc parmi les opposants, il y a une association québécoise qui s'appelle l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, la QDMD, qui a été fondée en 2007. Et elle se définit, ce qui est assez rigolo, comme une association pro-choix. Donc on retrouve exactement le même vocabulaire finalement que dans les luttes pro-avortement, anti-droit à l'avortement, pro-droit à l'avortement, etc. Donc les personnes qui se posent pour le droit à l'euthanasie se disent pro-choix également. Un des autres points communs que j'ai remarqué, c'est qu'il y a aussi une stratégie d'obfuscation de ces mêmes groupes religieux.
De quoi ?
Une stratégie d'obfuscation, ils se cachent finalement. Donc ils invoquent des arguments qui ont une essence religieuse, qui sont de nature religieuse, mais sans jamais le mentionner explicitement. Donc on ne fait pas de référence à Provit, on ne fait pas de référence à Benoît XVI, pas à la Bible, mais on étaye les mêmes arguments. Alors tu me diras, on a tout à fait le droit de faire ça, sauf que quand même, au bout d'un moment, ça... montre aussi que le débat se fait pas non plus de façon très sereine. Donc de la même façon aussi, on crée des maisons de soins palliatifs qui refusent le suicide assisté pour des raisons religieuses, mais sans le dire. Un peu comme on crée à Québec, par exemple, un centre comme Naître ou Ne Pas Naître, dont on avait déjà parlé, qui refuse l'avortement, mais qui le dit pas. Et qui le fait sur une base religieuse, mais qui n'en parle pas non plus. Donc tu vois, cette même stratégie de dissimulation, finalement. Un autre parallèle, c'est aussi la non-reconnaissance d'un choix. En fait, c'est vraiment un point important de l'argumentaire des anti-choix, finalement. Voilà, exactement. Il n'y a pas de libre arbitre. Et en fait, pour arriver à ne pas poser de libre arbitre, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne posent pas de sujet. Donc, exactement comme dans le débat sur l'avortement, les pro-vie, ceux qui s'appellent pro-vie, en fait, ils sont anti-choix, ne posent pas le droit des femmes à disposer de leur corps. Donc, ils ne parlent jamais des femmes. C'est vraiment tout le temps comme ça. On ne parle jamais des femmes. De la même façon, dans le débat sur l'euthanasie, on va rarement parler des personnes malades et de leur droit à disposer de leur corps. Donc on invoquera d'autres principes, le droit sacré à la vie, etc., etc. Mais on ne parlera pas du sujet en tant que tel, qui peut exercer son libre arbitre. Donc ça, je crois que c'est vraiment le cœur de l'argumentation hein, des catholiques politiques. Il faut bien le comprendre, pour bien comprendre aussi qu'ils s'opposent en fait fondamentalement au libéralisme politique, c'est-à-dire à l'exercice du libre arbitre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une société qui est ordonnée par Dieu, c'est vraiment lui qui est le principe transcendant qui régit la société. C'est pas du tout aux individus de choisir, hein, bande de petits mécréants. Donc il n'y a pas de choix qui est envisagé. Aussi, ce qu'on retrouve dans ce débat contre l'euthanasie ou pour l'euthanasie, finalement, c'est le risque d'une dérive totalitaire qui est évoquée. Donc un peu comme l'argument des pro-vie qui vise à dire qu'on impose l'euthanasie à des personnes fragiles, on va le retrouver, c'est exactement ce même argument. Alors je ne dis pas qu'il peut être faux ou pas faux, mais il est invoqué de façon systématique par les pro-vie. C'est-à-dire exactement comme ils disent qu'on impose, par exemple, aux femmes l'avortement, selon eux.
Ouais, dans le fond, il y aurait des gens qui ne voudraient peut-être pas vraiment mourir, veulent arrêter de souffrir. Mm-hmm. Puis là, voilà. Mais par ailleurs, on nie qu'il y a peut-être des gens qui veulent vraiment mourir.
Effectivement, voilà, ça permet donc de juste nier le choix de certains individus. Donc là, on peut s'imaginer effectivement de vouloir buter la vieille pour prendre son fric, finalement, grosso modo.
Mais ça va bien être présenté, il y avait un débat à Radio-Canada entre deux médecins, mm-hmm. puis l'animatrice à un moment donné a dit, ben vous dans le fond celle qui était contre l'euthanasie, uh-huh. dites-vous dans le fond, ce que vous êtes en train de dire c'est que c'est le médecin qui a le dernier mot. Mm-hmm. C'est lui qui décide. Uh-huh. C'est lui qui fait durer le plaisir.
Ouais, en fait, en même temps, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, parce que ça se fait avec la personne, ça se fait avec la famille. Donc, effectivement, des fois, la responsabilité peut incomber au médecin. Donc, c'est vraiment tout le débat, finalement, qu'a lieu à l'heure actuelle.
Non, cette commission. Mais elle, ce qu'elle disait, c'est mm-hmm. si vous êtes contre l'euthanasie, mm-hmm. puis que vous ne la pratiquerez jamais, mm-hmm. dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'en tout temps, c'est le médecin qui a le dernier mot.
Qui a le dernier mot, effectivement. Ou c'est la science qui choisit, finalement, combien de temps on peut vivre encore. Effectivement. Donc, le risque de cette dérive totalitaire, ce qui est drôle, c'est que, encore une fois, ça revient à faire le procès de la modernité d'une certaine façon, puisqu'elle est toujours dépeinte de façon barbare, violente, elle aurait entraîné le nazisme, le communisme stalinien, etc. Ça évoque un holocauste à venir, exactement comme les pro-vie vont le faire avec l'avortement. Donc on va se mettre à tuer tous les petits vieux, etc., comme on tue tous les fœtus. C'est leur vocabulaire, en fait.
Ah, mais eux, ils croient pas à l'Armageddon.
Et si, mais à la fin, tout le monde va au paradis, enfin les gentils, ouais, etc. Bon. Fait que, mais effectivement, ouais, quand tu regardes la façon dont ils orientent la politique étrangère, t'as de quoi flipper.
Ils sont d'accord, juste si tu vois les chevaliers de l'Apocalypse, sinon ça compte pas.
C'est ça, effectivement. Donc, on a le droit à certains holocaustes, mais tant qu'ils sont bénis par Dieu, finalement. Un autre argument aussi qui revient très souvent, qui est parallèle dans les deux débats avortement-euthanasie, c'est l'invocation de la nature. Donc ils sont pour une mort naturelle, mais ils définissent jamais ce que ça veut dire au XXIe siècle, par exemple, d'avoir encore une vie naturelle. Donc quand t'as des prothèses partout, tu prends des médicaments tous les jours, est-ce que ça c'est une vie naturelle? Quand t'es sous un aspirateur artificiel, est-ce que ça aussi c'est une mort naturelle, etc. Donc on invoque la nature, exactement comme dans le débat sur l'avortement, on invoque la nature pour dire que les femmes sont faites pour porter des enfants, et donc c'est une vision unique.
Et les gens sont faits pour vivre.
Voilà, et les gens sont faits pour vivre, la vie c'est fait pour être vécue. Enfin,
c'est en fait pour être souffrant, puis voilà.
Voilà, et en même temps on valorise la souffrance aussi, exactement comme...
ça nous fait avancer, progresser.
Voilà, il y a aussi la notion
des
belles martyr.
Choses que tu vas retenir maintenant, mais plus tard ça va te servir.
Ouais, ou ça, surtout une fois que t'es mort, ça c'est peut-être pas, mais bon. Bref. Excusez-moi. Donc c'est vraiment une vision unique, monolithique de la nature qu'on invoque, et puis qui tend à essentialiser ce qu'est la vie. Donc il y a une seule définition qui est retenue, c'est pas la tienne, c'est pas la mienne, c'est pas celle de la personne qui souffre, c'est celle de la Bible. Aussi, il y a un amalgame et un vocabulaire qui est confus, exactement comme dans le cas de l'avortement. Donc on n'insiste pas sur la différence entre euthanasie et suicide assisté. Même, en fait, on assimile l'aide au suicide au droit d'être tué. Donc un geste médical qui est comparé à un meurtre, exactement comme dans le cas de l'avortement, donc pas de nuance. Donc c'est exactement le discours des pro-vie quand ils disent que les obstétriciens qui pratiquent l'avortement tuent des bébés vivants, etc., etc. Or, le Collège des médecins, lui, il est vraiment très clair. Hein, c'est un geste intentionnel, l'euthanasie est un geste intentionnel dans le but de provoquer la mort, mais il se distingue du meurtre par trois aspects. Premièrement parce qu'il exprime la volonté d'un patient, deuxièmement parce qu'il se fait dans un contexte de compassion, et troisièmement parce que la mort est imminente ou inévitable. Donc tu vois, on ne parle pas du tout de meurtre. Eux, pourtant, ils vont pas arrêter de dire qu'on tue les gens.
Oui, mais à la limite, quelqu'un qui se fait tatouer, il se fait trouer la peau volontairement. Quelqu'un qui se fait tirer, il se fait trouer la peau volontairement. Donc finalement, les tatoueurs sont des fous dangereux qui tirent sur les gens.
Mais en France, c'est peut-être pas loin de demander,
mais sûrement qu'ils sont contre le tatouage aussi. Tout à
c'est pas de faire de la peine, mais en France, ils traitent ça comme la mutilation encore.
Ah, super.
Allez, encore deux derniers petits arguments, puis après, je raccroche le micro.
Non, Marc, c'est super intéressant.
C'est juste que c'est rigolo. Ça nous fait de... Oui, je comprends bien. Et puis, quelque chose qui revient souvent, c'est qu'on réduit finalement la vie à des fonctions biologiques. Donc, un peu comme le fœtus qu'on déclare vivant et humain dès sa conception, on va déclarer qu'une personne, elle est une personne humaine et en vie, tant que ses fonctions biologiques sont encore en place. Même s'il est complètement dans le coma, il n'y a plus de réponse, il n'y a plus d'espoir, etc. Donc, tu vois, une vision très réductrice de ce qu'est la vie finalement. Ça revient encore, et puis c'est pas la vie pleinement vécue, je sais pas, parce que la plupart des gens ont envie de vivre finalement, quoi. Et le dernier point, ce qui est un point intéressant, je pense, c'est que dans les deux cas, il y a un véritable risque, effectivement, d'eugénisme libéral, dont on parle très peu, et qui est pas justement invoqué par les catholiques intégristes, ou très peu, ou d'une façon très biaisée. C'est-à-dire qu'on pourrait imposer l'euthanasie non pas par la force, mais bien par une intériorisation normative. C'est-à-dire qu'on doit rester en santé, on doit rester autonome, productif, ne pas être un boulet, tous ces clichés un peu qui nous forgent, finalement, qu'on intériorise. Et effectivement, il y a un danger de glisser, un petit peu comme avec le droit à l'avortement ou à la sélection des fœtus, de glisser vers un eugénisme libéral, donc qui répondrait à une logique qui serait économique, qui répondrait avant tout aux forces du marché, aux forces en présence, etc. Mais bien sûr, c'est pas comme ça que les catholiques intégristes le posent, puisque de toute façon, ils reconnaissent pas les rapports de force économique dans la société. Ils reconnaissent que des principes moraux. Donc ça, c'est vraiment aussi un autre point dans leur argumentaire. Mais il faut quand même effectivement se méfier, parce que cette euthanasie, moi je pense que c'est vraiment un danger en tous les cas, c'est qu'il pourrait donc permettre qu'on achève peut-être la souffrance des pauvres, des moins bien dotés, ou au contraire celle des personnes dont les legs testamentaires suscitent un intérêt, donc celles des personnes aussi dont on veut plus s'occuper, etc. Mais en fait, il n'y a rien d'original dans ce que je dis, c'est quelque chose qui revient constamment dans la commission, donc on est loin vraiment d'un débat, d'une vision binaire comme celle qui est avancée par les catholiques intégristes. Une dernière petite citation pour finir, c'est celle de l'Association québécoise pour le droit à mourir dignement, qui répond un peu aux arguments des cathos intégristes sur leur site et qui dit « Une personne peut bien remettre entre les mains de Dieu sa vie et sa mort. Elle peut considérer que toute vie est préférable à la mort dans les moments extrêmes. Cela mérite le respect. Par contre, nul n'a le droit d'imposer cette vision à tous. » Et c'est bien ce que je reproche aux cathos intégristes dans ce débat. Et je crois que c'est d'ailleurs le point de vue de toutes ceux qui veulent organiser leur vie sans Dieu ni maître.
Hey. C'est ce qui va mettre fin à cette édition de Voix de Fée, hein, parce qu'on est flash. Tu voulais pas saluer quelqu'un?
Ah oui, je voulais saluer Christiane et Charlie. Allô, qui sont de passage à Québec.
Donc voilà, vous écoutez Voix de Fée sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, en compagnie de Nicolas,
Jenny
et Stéphane
et Farouco. Et on finit avec une pièce juste pour toi, Nicolas.
Passez une belle semaine sur les ondes de votre radio communautaire préférée.
Mais les eaux poulaient vulgaires partent en fragments et part qu'on ramassait sur un buvard. Contrairement à ce qu'on croyait, il y en avait qui en avait. L'étonnement est profond, peut en voir jusqu'au plafond.
Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais.
Sache que ta meilleure amie, prolétaire,
les socialistes n'ont rien fait pour abréger les forfaits de la famille capitaliste, mais heureusement va l'anarchiste. Plus de misère salariée, mise à prix sur le marché, plus de patrons et plus de patrices, tu es pour eux, c'est fini.
S'en est passé des réformes, des rébellions dans la norme, pour régler radicalement le problème social en suspens.
Des bons enfants, viande à prendre au plus offrant, l'avenir à Dieu prend l'escalade.